Laudetur Jesus Christus.
Seul un ange pouvait annoncer la résurrection du Christ. Il atteste ainsi de l'intervention directe de Dieu dans l'histoire. C'est ce qu'a déclaré le pape François lors du Regina Caeli d'hier, lundi de l'octave de Pâques. Nous y revenons dans un instant. La Jordanie dans la tourmente. Une sombre affaire de complot secoue la dynastie hachémite. Le demi-frère du roi Abdallah est accusé d'avoir voulu le renverser avec le concours d'une puissance étrangère. L'accord sur le nucléaire iranien peut-il être sauvé? Même s'il a été battu en brèche ces dernières années, les pays signataires veulent y croire. Ils se réunissent à Vienne, en Autriche, à partir d'aujourd'hui. Et puis, 500 ans d'évangélisation pour les Philippines. L'annonce du Christ dans cet archipel a fait du chemin depuis l'arrivée des premiers missionnaires espagnols en 1521. Les graines semées ont donc porté du fruit. Nous verrons comment, avec un missionnaire sur place depuis 16 ans.
Radio Vatican, le journal, Manuela Figi.
Bonjour à tous, retour donc sur la prière du Regina Caeli d'hier, lundi de Pâques, dit aussi lundi de l'ange. Le pape est revenu précisément sur la figure du messager de Dieu qui annonce la nouvelle de la résurrection aux saintes femmes. Il est une manifestation concrète de l'intervention de Dieu lui-même et de sa victoire sur la mort. Adélaïde Patrignani.
Je sais que vous recherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité, affirme l'ange de Dieu aux saintes femmes. L'expression « il est ressuscité » va au-delà des capacités humaines, note le pape. Elle ne pouvait sortir que de la bouche d'un ange, tout comme le fut l'annonce de l'incarnation du Fils de Dieu à la Vierge Marie. Après un fort tremblement de terre, un ange de Dieu descend du ciel, roule la pierre du tombeau et s'assoit dessus. Cette pierre, qui aurait dû être le sceau de la victoire du mal, devient le marchepied de l'ange. Ainsi, tous les plans des ennemis de Jésus auront été vains.
L'immagine dell'angelo seduto sulla pietra del sepolcro è la manifestazione concreta.
L'image de l'ange assis sur la pierre du tombeau est donc la manifestation concrète visuelle de la victoire de Dieu sur le mal, de la victoire du Christ sur le prince de ce monde, de la lumière sur les ténèbres. Cet ange et l'ouverture de la tombe attestent de l'intervention de Dieu lui-même, qui suscite deux attitudes. D'abord celle des gardes, stupéfaits, désarmés devant la puissance de Dieu. Et puis celle des saintes femmes, invitées par l'ange à ne pas avoir peur. De là, un enseignement doit être tiré. Ne nous fatiguons pas de chercher le Christ ressuscité qui donne la vie en abondance à ceux qui le rencontrent. Trouver le Christ signifie découvrir la paix du cœur et surtout la joie.
Adélaïde Patrignani. À la une de l'actualité internationale, la Jordanie, le paisible royaume hachémite, est secoué depuis trois jours par un scandale d'État touchant la famille royale. Les autorités d'Amman accusent le prince Ramza de comploter contre son propre demi-frère, le roi Abdallah, avec le soutien d'autres personnalités ainsi que d'une puissance étrangère. Assigné à résidence, le principal intéressé nie en bloc. La correspondance régionale depuis Jérusalem de Valérie Ferrand.
Si la stabilité de la Jordanie n'est plus en danger selon les officiels du royaume, la tension reste vive dans le pays malgré la médiation du prince Bin Talal, l'oncle du roi Abdallah II, auprès du prince Hamza, le demi-frère du roi, accusé de même que son épouse d'avoir fomenté un complot et d'avoir des activités en lien avec des puissances étrangères mettant en danger la sécurité de la Jordanie. Suite à une rencontre avec l'oncle du roi, le prince Hamza a signé une lettre dans laquelle il réaffirme son allégeance à la famille hachémite et au roi Abdallah II, qui lui avait retiré en 2004 son titre de prince héritier pour le donner à son propre fils, le prince Hussein. Dans cette lettre, le prince Hamza réaffirme qu'il restera fidèle à l'héritage des ancêtres, au roi et à son prince héritier. Si le roi Abdallah II a choisi de traiter la crise avec le prince Hamza au sein de la famille hachémite, celle-ci a cependant mis en lumière l'intensité des rivalités au sein du pouvoir et prouve pour les analystes qu'il y a un besoin urgent de réformes sociales et politiques dans le royaume. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
De l'autre côté du Jourdain, en Israël, c'est la formation d'un nouveau gouvernement qui se prépare. Les consultations ont commencé auprès des principaux partis politiques élus à la Knesset. Et pour l'instant, c'est Benjamin Netanyahou qui recueille le plus de soutien des députés. Pas sûr toutefois qu'il soit reconduit à son poste de Premier ministre, car toujours impliqué dans trois affaires de corruption. Son procès a d'ailleurs repris ce lundi. Attaque d'hommes armés contre une prison dans le sud-est du Nigeria. Plus de 1800 détenus en ont profité pour s'échapper. C'est l'assaut le plus important du genre dans l'histoire récente du pays. Les soupçons se tournent vers un groupe indépendantiste local. L'actualité aujourd'hui, c'est cette visite en Turquie des plus hautes autorités de l'Union européenne. Ursula von der Leyen et Charles Michel sont attendus à Ankara, signe d'une volonté de renouer le dialogue avec le président Erdogan après une année de relations plutôt compliquées. Au cœur des discussions, des dossiers aussi cruciaux que délicats, la Méditerranée orientale, la situation en Libye et le conflit dans le Haut-Karabakh, ainsi que la question des réfugiés syriens sur le sol turc. Et c'est une autre réunion importante qui s'ouvre aujourd'hui à Vienne pour tenter de sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Elle rassemble les pays signataires du texte de 2015, à savoir la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Iran. Mais il y aura également une délégation américaine dans la capitale autrichienne pour négocier indirectement avec Téhéran. À Vienne, Isorias.
C'est un premier pas après des mois d'impasse diplomatique. À partir de ce mardi, tous les États signataires de l'accord en 2015, y compris les États-Unis, se retrouvent à Vienne pour tenter de sauver cet accord, fragilisé par le retrait américain et le rétablissement des sanctions en 2018, auxquelles l'Iran a répondu en s'affranchissant progressivement de plusieurs de ses engagements. À ce stade, aucune négociation directe n'est prévue entre Iraniens et Américains. Cette réunion de Vienne devrait surtout permettre de lancer deux groupes de travail pour préparer les aspects pratiques d'une part de la levée des sanctions américaines et d'autre part du retour de l'Iran au respect de ses engagements. En parallèle, des discussions indirectes seront menées entre l'Iran et les États-Unis par le biais de l'équipe du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. L'objectif, selon ce dernier, est de pouvoir acter le retour des États-Unis dans les deux prochains mois, c'est-à-dire avant l'élection présidentielle qui se tiendra en juin prochain en Iran. Vianne Isorias pour Radio Vatican.
L'Iran où les cas de contamination Covid repartent en flèche après les vacances du Nouvel An persan. Les autorités parlent d'une quatrième vague inquiétante. La capitale Téhéran est classée en zone rouge et tous les commerces dits non essentiels sont fermés. À l'inverse, le Royaume-Uni va rouvrir lundi prochain ses salons de coiffure, ses terrasses de restaurants et ses salles de sport, encouragées par une amélioration visible des chiffres. Mais le projet d'un certificat de vaccination qui serait nécessaire pour accéder aux pubs notamment fait encore débat. Et puis l'inconnu demeure aussi sur la possibilité de voyage à l'étranger, tributaire de la situation épidémique dans les pays de destination. À Londres, Jean Jaffray.
Cette nouvelle levée de restrictions à partir de la semaine prochaine est pleinement justifiée par le succès de la campagne de vaccination contre la Covid-19, n'a pas manqué de souligner Boris Johnson lors d'une conférence de presse. 32,5 millions de Britanniques ont en effet reçu une première dose de vaccin. Le Premier ministre a confirmé que les pubs et restaurants qui pourront servir à des tables en extérieur rouvriront, ainsi que les salons de coiffure et les clubs de gym, entre autres. Le gouvernement, tout en affirmant suivre les conseils des scientifiques qui estiment possible une troisième vague de l'épidémie à l'automne, pousse à la reprise de l'activité après 3 mois de confinement. Mais l'idée de devoir présenter une preuve de vaccination ou le résultat d'un test négatif récent sous forme numérisée pour assister à un match de football, par exemple, se heurte à une vive opposition d'une cinquantaine de députés conservateurs. Enfin, voyagistes, compagnies aériennes et aéroports craignent une seconde saison blanche car rien de précis n'a été dévoilé sur le projet de classer les pays selon la prévalence de l'épidémie et de leur couverture vaccinale, en fonction desquels il sera obligatoire soit de s'isoler chez soi au retour, soit de passer une dizaine de jours dans un hôtel en quarantaine qui coûte 2,000 euros environ. Londres, Jean Jaffray, Radio Vatican.
Des confinements progressifs également au Portugal qui a rouvert ses musées, ses terrasses et ses collèges après 2 mois de fermeture. Réouverture aussi en Grèce malgré des chiffres d'infection et de décès qui demeurent élevés. Vladimir Poutine prêt à rempiler pour 2 autres mandats. Celui qui préside aux destinées de la Russie depuis l'an 2000 a signé une loi qui lui permet de se représenter et donc de rester éventuellement au pouvoir jusqu'en 2036. Cette réforme constitutionnelle avait été validée par un référendum en juillet 2020. L'État américain de Floride sous la menace d'une catastrophe écologique, un réservoir d'eau usé sur le point de se rompre. L'on craint des inondations gigantesques ainsi que des dégâts d'ampleur sur l'environnement. L'état d'urgence a été déclaré. Des opérations sont en cours pour réduire la pression du réservoir. Et puis l'Indonésie et le Timor oriental touchés par de fortes inondations. Au moins 150 personnes sont mortes suite à des glissements de terrain provoqués par les pluies torrentielles du cyclone Seroya. De nombreuses personnes ont gagné des centres de secours. Des milliers d'habitations, de routes, de ponts et d'hôpitaux ont été endommagés ou détruits. Aucune amélioration des conditions météo n'est prévue ces prochaines heures. Il y a 500 ans, des missionnaires venus d'Espagne accostaient sur les rivages des Philippines en compagnie de l'explorateur Ferdinand de Magellan. Ainsi commençait l'évangélisation de ce vaste archipel asiatique, pas moins de 2000 îles habitées, éparpillées dans les mers. Aujourd'hui, selon les estimations, 90% des Philippins sont chrétiens, dont plus de 80% de catholiques romains et 9% de protestants. Cet anniversaire de l'évangélisation des Philippines a donné lieu à quelques gestes de la part du Saint-Père qui s'était rendu là-bas en 2015. Une messe a été célébrée en la basilique Saint-Pierre le 14 mars dernier. Ce dimanche, François a adressé un message vidéo aux catholiques de l'archipel où il les encourage à poursuivre l'annonce de l'évangile. Alors comment la semence répandue il y a 500 ans a-t-elle pu donner autant de fruits? On en parle avec le père Bernard Holzer, assomptionniste en mission aux Philippines depuis 16 ans.
Lorsque les missionnaires sont arrivés ici aux Philippines, donc en 1521, ils ont trouvé un peuple très religieux, pacifique, accueillant, et ils ont été assez conquis par le christianisme, puisque lorsque Magellan est arrivé avec les Augustins et qu'il y a eu les premiers baptêmes très vite, une des offrandes qui a été faite, c'est l'enfant Jésus de Prague, qui a été donné à la princesse qui venait d'être baptisée. Et une de ses réflexions était, eh bien, une religion qui a comme Dieu un enfant ne peut être que bonne. Et ensuite, ses premiers missionnaires, c'était à la fois des savants, des érudits, etc. Ils ont commencé par traduire. Ils s'intéressaient aussi aux gens. C'était, ils ont fait les premières cartes du pays. Ils ont fait la flore, le relevé des choses, etc. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et aussi l'organisation de la société.
Alors, le peuple philippin a connu beaucoup d'épreuves. Est-ce que sa foi l'aide à traverser ces tempêtes?
Je crois qu'il y a une très grande résilience. C'est une de mes grandes expériences de voir comment le peuple arrive à supporter les catastrophes naturelles, mais aussi beaucoup de difficultés dans la vie. Aujourd'hui, la façon dont ils approchent le Covid. Pour moi, ce qui m'a frappé ici en venant, c'est la Semaine Sainte. La Semaine Sainte est vraiment au cœur de cette foi, et pas tellement la résurrection. Le Vendredi Saint, ici, est très important. On communie vraiment aux souffrances du Christ. Christ s'est fait l'un de nous. Et moi, une expérience qui chaque fois me marque quand je vais dans une église, j'aime à m'attarder à l'entrée de l'église où souvent il y a un grand crucifix avec le Christ vraiment blessé avec beaucoup de sang. Et les gens viennent là caresser le Christ, lui parler, se confier à lui. C'est le Christ souffrant qui est l'icône de ce peuple. Et puis ensuite, cette joie de célébrer, de prier aussi, tout moment et occasion de prière. On ne fait pas une réunion sans commencer une prière. Il n'y a pas un acte qu'on fait ensemble sans prier et confier ça au Seigneur. Ça, c'est vraiment impressionnant.
À quel défi fait face aujourd'hui l'Église des Philippines?
C'est le défi du début, je crois que c'est une évangélisation en profondeur. C'est-à-dire une foi aussi qui nous transforme chacun, mais qui ensuite transforme la société. Or, le défi actuel, c'est la pauvreté, c'est la misère, mais c'est aussi les injustices, et puis les meurtres. C'est une société qui est très violente. La semence de l'évangile n'est pas encore entrée pleinement dans le cœur de chacun. Et l'archevêque de Manille, un peu à son programme, il a mis ça, c'est-à-dire que vraiment nous suivions le Christ et son message. Parce qu'il y a beaucoup de violence.
Et la jeunesse, est-ce qu'elle suscite elle aussi des défis?
Actuellement, le dimanche, enfin pas en période de Covid, mais en temps normal, les églises sont pleines. Il y a à peu près 8 à 10 messes durant le week-end, c'est plein, mais il n'y a pas beaucoup de jeunes. Donc il y a actuellement, on est dans une phase de transmission de foi qui se fait d'une façon un peu difficile, parce que c'est en même temps une société très matérialiste. Les grands temples d'aujourd'hui, c'est les malls, c'est-à-dire c'est les grands magasins, des complexes énormes, on se réunit dans les malls et on se rencontre là-bas. Il y a là un gros défi, et puis aussi les médias sociaux. Les Philippines, c'est sans doute le pays qui utilise le plus, malgré la pauvreté. C'est un vrai défi, parce que pendant qu'on est là-dessus, eh bien, on n'ouvre pas automatiquement les écritures.
Voilà, les 500 ans d'évangélisation des Philippines, un dossier réalisé par Adélaïde Patrignani. Vous pouvez le retrouver en intégralité sur notre site vaticannews.va. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre écoute fidèle. Je vous retrouve à 13h pour un nouveau point sur l'actualité du Saint-Siège et du monde. Excellente matinée à toutes et à tous.